Orbital, une journée, 16 aurores. Orbite moins 20. En orbite autour de la Terre dans leur vaisseau spatial, ils sont si proches et si seuls que même leurs pensées, leur mythologie intime parfois se rejoignent. Il leur arrive de faire les mêmes rêves, des rêves de fractales, de sphères bleues, de visages familiers perdus dans l'obscurité et du noir intense et dynamique de l'espace qui terrasse leur sens. L'espace nu est une panthère sauvage et primitive. Ils rêvent qu'elle rôde dans leur habitacle. Ils sont suspendus dans leur sac de couchage. À quelques centimètres d'eux, derrière une peau métallique, l'univers se déploie en simples éternités. Leur sommeil s'affaiblit alors, une aube lointaine point, et leurs ordinateurs pulsent les premiers messages silencieux d'une nouvelle journée. La station, en éveil perpétuel, il vibre de tous ses filtres et ventilateurs. Dans la cuisine, les restes du dîner de la veille. Des fourchettes sales retenues à la table par des aimants, des baguettes glissées dans un étui fixé au mur. Quatre ballons bleus flottent dans l'air ventilé. Des guirlandes en aluminium proclament « Bon anniversaire ». Ce n'était l'anniversaire de personne, mais il fêtait quelque chose et n'avait rien d'autre à disposition. Il y a une traînée de chocolat sur une paire de ciseaux et une petite lune en feutre au bout d'une ficelle attachée au montant de la table pliante. Dehors, la Terre tourne sur elle-même dans un amas de lumière lunaire et semble se dénuder alors qu'il fonce vers sa surface infinie. Les touffes de nuages au-dessus du Pacifique rehaussent l'océan nocturne d'un bleu cobalt. Voilà qu'apparaît Santiago sur la côte sud-américaine en approche dans un halo d'or flamboyant. Invisible derrière les volets clos, les alizés qui soufflent sur les eaux chaudes du Pacifique Ouest ont provoqué une tempête, un moteur à combustion. Les vents prennent la chaleur de l'océan là où elle se concentre sous forme de nuages qui se densifient, caillent, puis forment des cheminées verticales, générant un typhon. Tandis que ce dernier se déplace à l'ouest vers le sud de l'Asie, leur vaisseau fait route vers l'est, en direction de la Patagonie, où une aube lointaine épand son arc néon à l'horizon. La Voie lactée est une traînée de poudre vaporeuse lancée dans un ciel satiné. À bord du vaisseau, c'est un mardi matin, il est 4h15, début octobre. Dehors, il y a l'Argentine, il y a l'Atlantique Sud, il y a le Cap, il y a le Zimbabwe. Par-dessus son épaule droite, la planète laisse échapper un soupir matinal. Une étroite fissure de lumière en fusion. Il traverse en silence les fuseaux horaires. Tous ont été à un moment donné propulsés dans l'espace par une bombe au kérosène, puis dans l'atmosphère à bord d'une capsule surchauffée, l'équivalent en poids de deux ours bruns faisant pression sur eux. Leur cage thoracique a tenu bon contre la charge jusqu'à ce que les ours se retirent l'un après l'autre. Puis le ciel est devenu l'espace, la gravité a diminué et leurs cheveux se sont dressés sur leur tête. Ils sont six dans un grand H de métal suspendu au-dessus de la Terre. Ils tournent sur eux-mêmes. Quatre astronautes, américains, japonais, anglais, italiens, et deux cosmonautes, russes. Deux femmes, quatre hommes, une seule station spatiale composée de 17 modules interconnectés, filant à 28 000 km à l'heure. Ils sont les six derniers d'une longue liste, rien d'inhabituel à cela désormais, des astronautes ordinaires dans l'arrière-cour de la Terre. L'improbable et fabuleuse arrière-cour de la Terre. Et ils tournent au gré de leur lente et longue dérive, en une roulade perpétuelle, tournent sans cesse au fil des jours. Les jours se succèdent rapidement. Ils vont rester ici environ 9 mois. 9 mois à dériver en apesanteur. 9 mois avec la tête gonflée. 9 mois à vivre comme des sardines. 9 mois à s'extasier devant la Terre avant de revenir sur la patiente planète. Une civilisation extraterrestre penserait peut-être en les regardant, que font-ils ici? Pourquoi ne vont-ils nulle part et tournent-ils sans cesse? La Terre est la réponse à toutes les questions. La Terre est le visage réjoui de l'être aimé. ils la regardent dormir et s'éveiller et se perdent dans ses routines. La Terre est une mère guettant le retour de ses enfants, pleine d'histoires, d'extase et d'aspiration. Leurs os sont un peu moins denses, leurs membres un peu plus minces, leurs yeux emplis de visions difficiles à décrire. Orbite 1 en montée. Roman se réveille tôt. Il s'extirpe de son sac de couchage et nage dans l'obscurité vers le hublot du labo. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Au nom du ciel. C'est la nuit et des terres sont visibles. Une vaste nébuleuse urbaine se profile au sein d'un désert brun-rouille. Non, deux villes, Johannesburg et Pretoria enlacées telles une étoile binaire. Juste au-delà de la couche atmosphérique, il y a le soleil. D'ici une minute, il va dégager l'horizon et envahir la Terre, et l'aube poindra quelques secondes avant que la lumière du jour soit partout en même temps. L'Afrique centrale et l'Afrique orientale, soudain éclairées et brûlantes. C'est son 434e jour dans l'espace, un total cumulé sur 3 missions différentes. Il compte chaque jour. Son 88e jour pour cette mission. Une seule mission de 9 mois comporte environ 540 heures d'exercices matinaux. D'exercices matinaux. 500 réunions matin et après-midi avec les équipes américaines, européennes et russes au sol. 4320 levées de soleil, 4320 couchers de soleil. Presque 180 millions de kilomètres parcourus. Mais seulement 36 mardis, celui-ci étant le premier. 540 fois à devoir avaler du dentifrice. 36 changements de t-shirt, 135 changements de sous-vêtements. Renouveler vos sous-vêtements tous les jours est ici un luxe impossible. 54 paires de chaussettes propres. Aurore boréale, ouragan, tempête, en nombre inconnu, mais à l'occurrence certaine. 9 cycles complets de la Lune, bien sûr. Leur compagne argentée enchaînant placidement ses phases tandis que les jours se défont. Mais néanmoins, la Lune, vue plusieurs fois par jour, est parfois en une étrange distorsion. À ce compte tenu sur un bout de papier dans ses quartiers, Roman ajoutera une 88e ligne. Non pour éradiquer le temps, mais pour essayer de le rattacher à quelque chose de comptable. Sinon le centre dérive. L'espace pulvérise le temps. Au cours de l'entraînement, on leur a dit « Tenez le compte chaque jour à votre réveil. Dites-vous, c'est le matin d'une nouvelle journée. Ne l'oubliez pas, c'est le matin d'une nouvelle journée. » Et c'est le cas. Mais aujourd'hui, ils vont tourner autour de la Terre 16 fois. Ils verront 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil, 16 jours et 16 nuits. Roman s'agrippe à la rampe près du hublot pour se stabiliser. Les étoiles de l'hémisphère sud s'égaillent. Vous êtes liés au temps universel coordonné, leur répètent les équipes au sol. Ne l'oubliez pas, jamais. Regardez souvent votre montre pour ancrer votre esprit. Dites-vous au réveil, c'est le matin d'une nouvelle journée. Et c'est le cas. Mais c'est une journée avec 5 continents, automne et printemps, glaciers et déserts, étendues sauvages et zones de guerre. Au cours de leur rotation autour de la Terre, dans les accumulations de lumière et d'obscurité, dans l'arithmétique déconcertante de poussée, d'altitude, de vitesse et de détecteur, le coup de fouet du matin se produit toutes les 90 minutes. Ils aiment quand l'aube évanescente coïncide avec la leur. Lors de cette ultime minute d'obscurité, la lune est presque pleine et frôle la lueur de l'air. C'est comme si la nuit ne se doutait pas qu'elle allait être évincée par le jour. Roman s'imagine d'ici quelques mois chez lui, devant la fenêtre de sa chambre, en train d'écarter le bouquet de fleurs séchées, dont les noms lui échappent, composé par sa femme, d'ouvrir non sans mal le cadre roide au vert embué, de se pencher dans l'air moscovite et de la voir, la même lune, tel un souvenir rapporté de vacances exotiques. Mais ça ne dure qu'un instant. Et déjà la vision de la lune depuis la station spatiale, basse et écrasée contre la couche atmosphérique, pas vraiment au-dessus d'eux, mais en face, comme une égale, occupe tout l'espace et la brève vision qu'il a eue de sa chambre, de sa maison, a disparu. À l'âge de 15 ans, Sean a eu droit à un cours sur le tableau « Les Ménines ». Il était question de la façon dont le tableau désoriente le spectateur et l'empêche de savoir ce qu'il regarde vraiment. « C'est une peinture dans une peinture », avait expliqué son professeur. « Regardez attentivement, regardez bien. Velázquez, l'artiste, est dans le tableau. Devant son chevalet, il peint un tableau, et ce qu'il peint, c'est le roi et la reine. Mais ces derniers sont en dehors du tableau, où nous sommes, à le regarder. Et si nous savons qu'ils sont là, c'est parce que nous pouvons voir leur reflet dans le miroir posé en face de nous. Ce que le roi et la reine regardent, c'est ce que nous regardons, leurs filles et leurs dames de compagnie. Et c'est ce que signifie le titre du tableau, Las Meninas, les dames de compagnie. Donc, quel est le véritable sujet de ce tableau? Le roi et la reine, que l'artiste est en train de peindre et dont les visages blancs reflétés, bien que petits, se trouvent au centre de l'arrière-plan. Leur fille, qui est l'étoile au centre, claire et blonde dans la pénombre. Ces dames de compagnie, et une naine, une chaperonne et un chien. L'homme furtif qui franchit le seuil au fond et semble apporter un message. Velázquez, dont la présence en tant que peintre est établie par le fait qu'il figure dans le tableau devant son chevalet en train de réaliser un portrait du roi et de la reine, mais ça pourrait être tout aussi bien les Ménines elles-mêmes. Où est-ce nous, les spectateurs, qui occupons la même position que le roi et la reine, qui regardons le tableau et sommes regardés à la fois par Velázquez et l'infante et dans le reflet par le roi et la reine? Où le sujet est-il l'art lui-même, lequel est un réseau d'illusions, d'effets et d'artifices au sein d'une conscience s'efforçant de comprendre la vie par les perceptions, les rêves et l'art? Ou bien, dit le professeur, est-ce juste un tableau sans sujet, juste une pièce avec des gens dedans et un miroir? Pour Sean, qui à 15 ans ne voulait pas suivre de cours d'histoire de l'art et savait déjà qu'il voulait être pilote de chasse, ce cours était l'acmé de la vanité. Il n'appréciait pas particulièrement ce tableau et se fichait de ce qu'il signifiait. Oui, sans doute, il ne s'agissait que d'une pièce avec des gens dedans et un miroir. Mais il ne prit même pas la peine de lever la main pour le dire. Il préféra dessiner de vagues figures géométriques sur son bloc-notes. Puis il dessina l'image d'un pendu. La fille, assise à ses côtés, vit ses petits dessins et lui donna un coup de coude. Haussa un sourcil et sourit d'un bref et léger sourire, et quand elle devint son épouse de nombreuses années plus tard, elle lui offrit une carte postale des Ménines, à ses yeux un emblème de leur tout premier échange. Et quand des années après, il se rendit en Russie pour préparer son voyage dans l'espace, elle lui fit au dos de la carte postale et d'une écriture de pâte de mouche un résumé de tout ce que leur professeur avait dit et que Sean avait complètement oublié, mais dont elle se souvenait avec une précision qui ne l'étonna pas, car c'était la personne la plus vive et la plus lucide qu'il ait jamais rencontrée. Cette carte postale est affichée dans ses quartiers. Ce matin-là, quand il se réveille, il s'aperçoit qu'il la regarde et regarde tous les sujets et toutes les perspectives possibles que sa femme a recensées au dos. Le roi, la reine, les servantes, la fillette, le miroir, l'artiste. Il la regarde pendant plus longtemps qu'il n'en a conscience. Quelque chose comme un rêve inachevé et fou s'attarde dans ses pensées. Quand il s'extrait de son sac de couchage et revêt sa tenue de sport, puis se rend dans la cambuse pour prendre un café, il aperçoit la pointe nord d'Oman qui se détache nettement dans le golfe Persique. Des nuages de poussière au-dessus de la mer d'Oman. Le grand delta de l'Indus, ce qu'il sait être Karachi, encore invisible en plein jour, mais de nuit un vaste et complexe réseau assuré qui lui rappelle les figures qu'il gribouillait autrefois. D'après la mesure du temps arbitraire qu'ils utilisent dans l'espace, là où le temps a explosé, il est 6 heures du matin. Les autres se lèvent. Ils regardent en bas et comprennent pourquoi on l'appelle la Terre-Mère. Ils ressentent tous ça de temps en temps. Ils font tous un lien entre la Terre et une mère, et ce faisant, ont l'impression d'être des enfants. Avec leur coupe au bol androgyne, leurs shorts réglementaires et leur nourriture pour bébé, les jus de fruits bus à la paille, les guirlandes d'anniversaire, les couchers de bonheur, l'innocence imposée des journées consciencieuses. Ils éprouvent tous à certains moments la soudaine annulation de leur moi astronaute et la sensation de retourner en enfance, d'être minuscule. Leur imposante génitrice sans cesse présente derrière le dôme de verre. Mais aujourd'hui, cette sensation s'est accrue. Depuis que Kay est entré un vendredi soir dans la cuisine, alors qu'il préparait le dîner, le visage encore exsangue sous le choc, il a dit « Ma mère est morte ». Sean a lâché son paquet de nouilles qui s'est mis à flotter au-dessus de la table. Pietro a franchi à la nage le maître qui l'a séparé d'elle. Il a baissé la tête et pris les mains de Kay en une chorégraphie si fluide qu'on l'aurait dit préparée. Nell a murmuré quelque chose d'incompréhensible. Une question. Quoi ? Comment ? Quand ? Quoi ? Puis a vu le visage blême de Kay viré au rouge, comme si ces mots avaient attisé sa peine. Depuis cette annonce, il regarde souvent la terre alors qu'il tourne autour. En flânant, dira-t-on, même si rien n'est moins vrai. Et il y a ce mot. Mère. 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 L'unique mère de Kay est désormais cette boule lumineuse qui roule dans le vide et s'élance malgré elle autour du soleil une fois par an. Kay est désormais orpheline, son père étant mort 10 ans plus tôt. Cette boule est la seule chose qu'elle peut désigner comme lui. Cette boule est la seule chose qu'elle peut désigner comme lui ayant donné la vie. Il n'y a pas de vie sans elle. Sans cette planète, il n'y a pas de vie. Une évidence. Pense une pensée nouvelle, se disent-ils parfois. Les pensées qu'on a en orbite sont si grandioses et datées. Pense quelque chose de nouveau, une pensée neuve et complètement inédite. Mais il n'y a pas de pensée neuve, juste des pensées anciennes, nées dans des moments nouveaux. Et dans ces moments figure la pensée suivante. Sans cette terre, nous sommes tous fichus. Nous ne pourrions survivre une seconde sans sa grâce. Nous sommes des marins sur une mer sombre, abyssale, infranchissable. Aucun d'eux ne sait quoi dire à Kay. Quelle consolation offrir à une personne frappée par le deuil en orbite. On doit sûrement vouloir rentrer chez soi pour un dernier adieu. Inutile de parler. Il suffit de regarder par le hublot la lueur qui se double et se dédouble. La terre, vue d'ici, est comme le ciel. Elle ruisselle de couleurs, une explosion de couleurs prometteuses. Quand on est sur cette planète, on lève les yeux et on croit que le ciel est ailleurs. Mais voici ce que pensent parfois les astronautes et les cosmonautes. Peut-être que nous tous, qui sommes nés sur la Terre, nous sommes déjà morts et dans l'au-delà. Si nous devons aller dans un endroit improbable et difficilement imaginable à notre mort, alors ce globe lointain et vitreux, avec sa belle lumière solitaire, pourrait fort bien être cet endroit. À présent, tandis qu'ils font route vers le sud et quittent la Russie orientale en une diagonale qui traverse la mer d'Okhotsk, le Japon apparaît dans l'éclat grimauve du milieu de l'après-midi. Leur trajectoire croise l'étroite bande des îles Kouriles qui se ferait un passage encaissé entre Japon et Russie. Dans la lumière indistincte, les îles semblent acquis une suite d'empreintes de pas qui sèchent. Son pays est un fantôme qui hante les mers. Son pays est un rêve qu'elle ne se rappelle avoir fait. Il vit là, mince et en biais. Elle regarde par le hublot du labo, tout en s'essuyant après ses exercices. Ses mouvements de haut en bas sont droits et réguliers. Si elle pouvait rester en orbite le restant de sa vie, tout irait bien. Ce n'est que si elle rentre que sa mère sera morte. Comme dans un jeu de chaises musicales, quand il y avait une chaise de moins que le nombre d'humains, mais tant que la musique persiste, le nombre de chaises demeure abstrait et tout le monde peut continuer de jouer. Il ne faut pas s'arrêter. On doit continuer de marcher. Il y a cette orbite glorieuse et quand on est en orbite, on est à l'abri des chocs et rien ne peut vous atteindre. Quand la planète galope dans l'espace et que vous galopez à sa suite dans la lumière et la nuit avec votre cerveau ivre de temps, rien ne saurait finir. Il pourrait n'y avoir aucune fin. Il ne peut y avoir que des cercles. Ne pas rentrer. Restez ici. Continuez. La lumière crémeuse qui monte de l'océan est si exquise. Les nuages pelucheux s'écoulent par vagues. Grâce à un zoom, voir les premières chutes de neige sur le mont Fuji, le bracelet d'argent de la rivière Nagara où elle nageait enfant. Et tout près, les impeccables panneaux solaires qui boivent le soleil. Vue depuis la station spatiale, l'humanité est une créature qui ne sort que la nuit. L'humanité est la lumière des villes et le filament éclairé des routes. De jour, elle a disparu. Elle se cache en pleine vue.